Yacht de Saad Ben Khalif, 18h38. Ça fait 10 minutes que nous sommes à bord du yacht et que nous venons de quitter le port car Amir souhaitait pouvoir faire ses recherches sans être importuné. Ce bateau est incroyable, gigantesque et entièrement blanc. Je le visite sous le regard d'Amir qui me jauge sans rien dire. Il comporte un poste de pilotage grandiose, une cuisine qui offre une vue parfaite sur la mer et un espace à l'extérieur avec des tables et des sofas en forme de U. J'arrive dans la chambre où un grand lit occupe pratiquement toute la place. Une salle de bain équipée jouxte la chambre. Je rejoins Amir qui est en train de fouiller l'une des pièces. Ça semble être l'ancien bureau de Saad au vu des nombreuses photos de lui et d'une magnifique femme qui doit être Amani sur les murs. Ils avaient vraiment l'air de s'aimer à en crever. De nombreux cartons sont disposés dans le bureau. Je suppose qu'il s'agit de toutes les affaires de Saad que Shadi a rangées. Je sens que la recherche d'indices va prendre du temps. Amir paraît chamboulé en voyant les photos de ses grands-parents, mais dès lors qu'il sent ma présence, il se met à fouiller dans l'un des cartons. J'en prends un moi aussi et déverse son contenu sur le sol. Nous passons tout en revue pendant une bonne trentaine de minutes sans qu'aucun de nous deux daigne parler. Évidemment, nous ne trouvons rien d'intéressant. La plupart des cartons contiennent des documents professionnels concernant Saad. Le téléphone d'Amir sonne. Il décroche et entame une discussion avec un de ses hommes. Je sors une sucette de ma poche et la déballe. Je commence à la sucer et Amir me regarde, choqué. Je lui offre un sourire en coin. Amir raccroche. « Tu en veux ?» Il me fusille du regard. « Arrête de me chercher !» m'ordonne Amir. Je croque ma sucette et la jette dans une poubelle. « Je ne vois pas de quoi tu veux parler. » Je réponds innocemment. Je me rapproche de lui et me mets sur la pointe des pieds. Je baisse les yeux et remarque qu'il est au garde-à-vous. Je fais volte-face et reprends la fouille des cartons. « Je veux être seul, sors d'ici. »« On n'a pas fini de chercher, » je réponds. « Je t'ai dit de sortir. » persiste Amir. Je hausse les épaules et sors du bureau. Amir claque violemment la porte. J'entre à nouveau dans la pièce. Il m'observe avec désir et surtout frustration. Il respire fort. Il serre les poings en tentant de se calmer et de redescendre en vain. « Pourquoi tu ne peux pas juste reconnaître que tu as envie de moi? Je ne veux pas que tu te sentes mal auprès de moi. »
« Je ne vois pas de quoi tu veux parler. »
m'assure Amir. « Ah ouais ?» Je me rapproche de lui et pointe du doigt son anatomie. « Ton entrejambe voit parfaitement de quoi je veux parler. » Je rétorque. Il me défie du regard.
« Tu sais très bien qu'on ne peut pas faire ça. »
réplique Amir. Il soupire.
« Sors d'ici. »
exige-t-il. « Tu ne comprends pas que j'essaie de t'aider. Je veux te prouver que t'es capable de te contenir. » Ce ne sont pas tes pulsions qui te définissent, Amir. Je ne veux pas que tu couches avec moi. Ce n'est pas ce qui me motive. Je veux juste que tu te rendes compte que tu es bien plus fort que ce que tu crois. Je lui explique. Il hausse les sourcils. Il s'avance vers moi et me plaque contre le mur du bureau.
Arrête de dire n'importe quoi avant qu'il soit trop tard,
m'intime-t-il.
Je ne vais pas me contrôler, Kara. Tu ne peux pas imaginer à quel point je meurs d'envie de te prendre et de t'entendre hurler mon nom à en crever,
me confesse-t-il. Je ne lui réponds pas. Je pose tendrement ma main sur sa joue et la caresse. Son regard est mêlé de crainte, de doute, mais aussi de désir. Je lui offre un sourire rassurant. Nous ne ferons rien tant que tu ne seras pas prêt. Si tu veux t'abstenir d'avoir des relations sexuelles, je le ferai aussi. Je souhaite juste que tu saches que je te soutiens, quels que soient tes choix. Il écarquille les yeux. Le sexe n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est Amir. S'il veut attendre, on attendra le temps qu'il faut. J'allais me dégager de son emprise quand Amir me dit
« Retire ton haut, s'il te plaît. »
Sa remarque me surprend, mais je retire mon body et me retrouve les seins à l'air face à lui. Il me fixe, puis il lâche progressivement la prise qu'il avait sur mes bras pour pouvoir me détailler. J'ancre mon regard dans le sien.
« Si tu savais ce que tu éveilles en moi. »
m'avoue Amir en se mordant la lèvre. Je déboutonne sa chemise jusqu'à ce qu'elle tombe au sol. Mes yeux restent rivés sur son torse musclé qui porte les cicatrices de ses différents combats. Il en émane de la puissance et de la virilité à l'état pur. Je baisse son pantalon qui glisse le long de ses longues jambes athlétiques et musclées. Il ne cesse pas de m'admirer tandis que je contemple son corps comme si c'était la première fois. Son membre est extrêmement tendu dans son caleçon. Tu me rends tellement fou. Son regard s'est assombri. Il respire difficilement, comme s'il avait des difficultés à se contenir. Je ressens toutes les folies qu'il a envie de me faire et à quel point il lutte pour ne pas me prendre sauvagement. Je n'ai pas peur de toi, Amir. Il pose brutalement ses lèvres sur les miennes. Il se frotte à moi et je sens son érection contre mon entrejambe. Putain. Gémit-il. J'éloigne ma bouche de ses lèvres pour reprendre mon souffle. J'en profite pour retirer mon pantalon et le balancer dans un coin de la pièce. Il me contemple pendant que j'ôte mon string noir. Tu es exceptionnel, Kiara. Il s'approche à nouveau de moi et me plaque contre le mur. Il reprend possession de mes lèvres et me les mord. Je réprime un gémissement de douleur, car cette dernière est vite remplacée par un désir ardent. Il prend mon téton droit dans sa bouche et le mordille. Il se met à tâter mon sein gauche pendant que je gémis de plaisir. Il pose ensuite sa bouche sur mon téton gauche, qu'il marque de sa morsure comme l'autre. Je soupire de douleur et de désir, tandis qu'il a la tête enfouie dans ma poitrine. Le plaisir est si fort que je peine à me maintenir debout contre ce mur. Amir descend jusqu'à mon intimité. Je sens son souffle sur cette zone tellement sensible et je gémis à en mourir alors qu'il n'a même pas commencé. Il écarte mes jambes pour y avoir accès, puis il cherche mon intimité. Il me happe. Je passe mes mains sur son dos et commence à le griffer tant je suis prise d'un sentiment de plénitude. Je suis sur le point de jouir quand il stoppe et qu'il relève la tête vers moi. Je le fixe et le trouve incroyablement beau à ce moment précis. Il se lèche les lèvres et je me rapproche pour y déposer un baiser. Il m'aide à me maintenir debout, puis il me plaque de nouveau contre le mur pour me pénétrer. Je laisse échapper un gémissement de douleur. Il maintient mes bras au-dessus de ma tête. Je ne suis plus maîtresse de mon corps. Je suis envahie par les émotions. Ce qui se passe est exceptionnel. Il pousse des râles de plaisir pendant que nos corps bougent à l'unisson sous la force de ses coups de rein. J'aime ça. J'ai l'impression que mes jambes vont fléchir s'il ne me retient pas. Mon rythme cardiaque s'emballe. Nous finissons tous les deux par jouir en parfaite osmose. Je laisse tomber ma tête contre son torse. Mes jambes flageolent tant que je ne parviens plus à bouger. Je pense qu'il s'est retenu, mais mon entrejambe l'a senti passer. C'était incroyable. Je ne m'attendais pas à ce que son corps et le mien soient aussi compatibles. Je ne laisse rien paraître, même si mes cuisses me picotent. Je reprends difficilement mon souffle. Sa bestialité a quasiment disparu. « Tu vas bien ?» me demande Amir. Je hoche la tête. Je ne suis pas encore remise des événements. J'ai du mal à reprendre conscience et à parler correctement. Je pense que je vais souffrir au niveau de mon intimité pendant longtemps. Nous restons contre le mur quelques secondes, puis allons enfiler nos vêtements. Je peine à marcher et même à m'habiller. Amir s'en rend compte puisqu'il se poste à mes côtés pour s'assurer que je ne tombe pas. « Je vais très bien », dis-je en souriant. « Je ne voulais pas te faire mal. Tu m'as fait plus de bien que de mal », je réplique. Amir sourit puis il passe sa main sur mes cheveux. « Continuons nos recherches », je suggère. Il hoche la tête. Nous reprenons la fouille des cartons. Je suis en train d'étudier des documents quand je tombe sur une vieille photographie. Amani se tient fièrement aux côtés de Saad. Elle était vraiment très belle. Elle avait les cheveux châtain foncé lui arrivant à la poitrine, le teint pâle et les yeux verts. Sur cette photo, elle est accompagnée de deux petits garçons qui doivent être Naël et Ousni. Ils sont dehors et semblent profiter de ce moment. Le ventre d'Amani est bien arrondi. Elle attendait sûrement Sohan à cette période. Cette photo est magnifique, on dirait une famille normale. Amir s'approche pour observer la photo. Je retourne celle-ci et vois la date à laquelle elle a été prise. Ça remonte à loin. Ils avaient tous l'air très heureux. Comment, Amir? Je pense qu'ils l'étaient sincèrement. Je pose la photo sur le côté puis continue mes recherches. Je trouve le livret de famille des Ben Khalif et mon regard bute sur une date. La date de naissance de Sohan. Il est né le soir où cette photo a été prise. Je reprends la photo et regarde le ciel sombre, plein d'étoiles. Je touche le visage, puis le ventre arrondi de cette superbe femme, puis un flash frappe mon esprit. Sohan est né durant une magnifique nuit étoilée. Amir, il se tourne vers moi.
Tu as trouvé quelque chose ?
Regarde le sens du prénom Sohan sur Internet. Il m'observe avec incompréhension, puis il effectue la recherche.
Ce prénom veut dire étoile.
Une étoile. L'étoile des Ben Khalif. Je lui adresse un grand sourire. Tu te rappelles qu'on a trouvé la photographie d'une étoile en prison. Étoile, comme Sohan. Saad faisait référence à lui en nous laissant cette photo. Aussi, tu m'as dit que Shadi t'avait donné le nombre 19. Tu te souviens que les différentes clés USB nous avaient donné une suite de nombres ? Ces nombres correspondaient à une lettre de l'alphabet. Le S est la 19e lettre de l'alphabet. S comme Sohan. Amir semble comprendre, sous le choc. Tous les indices, pris indépendamment, ne veulent rien dire. Mais quand on les réunit, ils convergent vers la même personne. On en revient toujours au dernier fils Ben Khalif. C'est lui qui possède la puce. Sohan Ben Khalif, le frère oublié de tous.
Dans la lettre de Saad, dit Amir, il est écrit mot pour mot « Si tu es à la recherche de la puce, c'est que tu es en quête de pouvoir. La puce pourra te l'offrir, néanmoins, pense à toutes les personnes que tu risques de blesser en l'utilisant. Pense aux vies que tu vas détruire, que tu vas prendre sur ton passage et que tu vas irrémédiablement marquer. J'espère que c'est l'un de mes enfants ou de mes descendants qui lit cette lettre. Si tu appartiens à la lignée des Ben Khalif, tu feras forcément le bon choix. J'ai mis en place tous ces stratagèmes pour faire en sorte qu'un Ben Khalif retrouve cette puce, car j'ai foi en ma famille.
Je m'étonne qu'il se rappelle exactement ces mots, mais je suis heureuse qu'il ait compris mon raisonnement. Saad était un véritable génie. Amir reprend.
Cette puce ne peut être retrouvée que par un Ben Khalif, puisqu'elle est auprès d'un Ben Khalif mort et que seuls les membres de ma famille savent où le corps se trouve. Saad a laissé la puce dans la tombe de Sohan, un lieu sûr, à l'abri des convoitises.
Nous venons de trouver l'emplacement de la puce. Enfin, après toute cette attente.
Comment j'ai pu ne rien voir ?
S'écrie Amir, joyeux.
Elle était près de moi depuis le début. Il faut qu'on aille fouiller la tombe de Sohan. La puce dort là-bas depuis bien trop longtemps. Il est temps de clore cette histoire.
Amir sort son téléphone de sa poche. Mes jambes vacillent et ma tête tourne. Il me rattrape par la taille.
Ça va ?
S'empresse-t-il de me demander. Je hoche doucement la tête. J'affiche un sourire rassurant. Quand Amir voit que je parviens à me tenir sur mes jambes, il me relâche.
On ira chercher la puce demain. Tu es pâle.
Je suis surprise qu'il soit prêt à attendre pour récupérer la puce alors qu'il la recherche depuis tant d'années. Il n'a jamais été aussi près du but.
Je vais appeler Aymen,
ajoute-t-il.
Il va venir nous chercher.
Pourquoi tu ne conduis pas ?
Je suis encore excitée. Je suis pas apte à conduire.
Admet Amir mal à l'aise. Il est vrai que ses yeux traduisent encore son excitation. Il n'a plus de seringue. Il lui faudra du temps pour redescendre. Laisse-moi conduire alors. Il secoue la tête.
T'as pas l'air en grande forme. Aymen va venir et on rentrera tous ensemble.
Conclut Amir. Il compose le numéro d'Aymen. Je m'installe sur la chaise du bureau et je reprends la magnifique photo de la famille d'Amir. Une famille incroyable. Lorsqu'Amir revient, je me relève de mon siège et dépose la photo sur le bureau. Il s'approche de moi et pose sa main sur mon front.
« Tu es brûlante. »
s'inquiète-t-il. « Il est mignon. Cesse de craindre pour moi. » Je lui dis en souriant. Il sourit.
Aymen me disait exactement la même phrase quand on était gamin et que je vérifiais sa température.
Je suis touchée par l'attention qu'il portait et qu'il porte toujours à son meilleur ami. « Pourquoi tu ne montres pas aux gens à quel point tu es gentil et attentionné envers tes proches ?» Je l'interroge. Il perd immédiatement son sourire. J'ai l'impression d'avoir touché un point sensible.
« Quand les gens voient le bien en toi, »
déclare-t-il,
« ils s'en servent souvent pour te nuire. Et puis, il faut toujours un méchant dans une histoire. Ça ne m'a jamais dérangé de passer pour celui-ci. Je ne veux décevoir personne en agissant comme un monstre. »
Quelques minutes plus tard, 22h06. Je suis installée à l'arrière de la voiture. Aymen est côté conducteur et Amir côté passager. Je me rends compte que ces deux hommes sont à la fois très différents et très similaires. Je ne saurais pas expliquer cette ressemblance. Ils n'ont pourtant aucun lien de parenté. Ils ont la même façon de se tenir, c'en est presque perturbant. La courbure de leur dos, leurs mains sur le volant, la manière dont leurs veines ressortent sur leurs bras lorsqu'ils conduisent. Amir m'a demandé de ne révéler à personne ce que nous avons découvert dans le yacht, car il estime que moins les autres en savent, plus ils sont en sécurité. Je suppose qu'Aymen sera blessé et énervé contre Amir en apprenant qu'il l'a mis à l'écart et qu'il ne l'a pas informé de l'avancée de nos recherches sur la puce. Mais Amir souhaite le protéger et c'est compréhensible. Amir me voit comme sa lumière, mais sa véritable lumière a toujours été Aymen. L'amour qu'ils se portent mutuellement surpasse les liens du sang. Je regarde à travers la vitre et plisse les yeux. Une camionnette noire roule juste à côté de nous. Elle nous colle tellement qu'elle touche presque la voiture. Son conducteur porte une cagoule. Un homme se tient sur le toit du véhicule alors que nous roulons à plus de 80 km/h. Il tient un gros calibre. Je n'ai pas le temps d'avertir mes deux acolytes que cet homme tire sur notre vitre, qui se brise en 1000 morceaux. Heureusement pour moi, aucun éclat de verre ne me touche. Amir et Aymen se tournent subitement vers moi pour voir si je vais bien. La voiture dévie de sa trajectoire. Aymen repose son regard sur la route pour éviter un accident. L'homme pointe son arme sur Amir. Je pousse immédiatement la tête de ce dernier. Une balle fuse juste derrière lui. La tête du siège est bien trouée. Amir a failli y passer. Amir et moi tournons nos têtes simultanément vers la camionnette. Le tireur crache un juron. Il s'enfuit en vitesse et Aymen n'essaie même pas de les rattraper puisqu'Amir ne lui en a pas donné l'ordre. « Respire, Kara », m'indique Amir. Mon cœur bat anormalement vite. La voix d'Amir est posée alors qu'il a failli mourir. « Je suis toujours là », me rassure-t-il. « Tu peux respirer. » Je le dévisage, tremblante, et je peine à prononcer le moindre mot. J'observe brièvement Aymen, qui sourit également. On dirait que frôler la mort est devenu un jeu pour eux. Pourtant, j'ai vu l'inquiétude dans le regard d'Aymen face à cet homme pointant son arme vers Amir. En conduisant, il n'aurait rien pu faire pour le sauver si je n'étais pas intervenue. Et le voilà qui sourit comme si de rien n'était. Il caresse ma tête doucement. Son geste m'apaise. Je ne vais pas mourir, Kara. Pas maintenant. Le lendemain, Villa Ben Khalif, 16h34. Dis-moi où il est.
Aucune idée,
me répond Aymen. Amir a disparu depuis ce matin et Aymen essaie de me faire croire qu'il ne sait pas où il se trouve. Il aime feindre l'ignorance alors qu'il en sait bien plus que quiconque. Je sais déjà qu'Amir n'est pas allé récupérer la puce, car il m'aurait attendu. Certes, c'est bien son genre de faire cavalier seul, mais je suis certaine qu'il veut cette fois que l'on soit ensemble. Tu mens. Non, promet Aymen en souriant nerveusement. Il fait que se tordre les mains, signe qu'il est en train de mentir. J'ai l'impression de passer mon temps à soutirer des informations à Aymen sur Amir, et ça finit toujours de la même façon. J'obtiens systématiquement ce que je veux. Tu es son ombre, tu sais forcément où il est, j'insiste. Je te dis que non. Il s'efforce de soutenir mon regard, puis il y renonce. Deuxième signe qu'il me ment. Ne me prends pas pour une idiote, ça m'énerve. Je te prends pas pour une idiote. Faux. Dis-moi où se cache ton frère dans ce cas. Tu veux que je le trahisse? J'espère qu'il ne s'attend pas à ce que je dise non, car ce n'est clairement pas mon intention. Il peut mettre sur pause sa loyauté fraternelle pour quelques minutes. Oui. Il soupire. Je ne vais rien te dire. Je croyais que tu ne savais pas où il était. Il me dévisage. Arrête de me mettre la pression, me répond Aymen. Dis-moi la vérité et je te laisse tranquille. Non. Je souris. Très bien. Quoi, c'est tout? S'étonne Aymen. Je ne vais pas te mettre le couteau sous la gorge, même si j'en meurs d'envie. Tu lâches vraiment l'affaire? Me demande-t-il suspicieux. Jamais de la vie. Non, je vais dire à Mathieu de localiser le téléphone d'Amir et je vais débarquer où il se trouve avec une multitude d'armes. Si je dois défendre ses arrières, j'y vais. Je lui tourne le dos mais il me rattrape. Non, ne fais pas ça. Alors dis-moi où il est avant que j'aille chercher mon arsenal pour faire un massacre. Je commence à perdre patience et ça fait très longtemps que je n'ai pas défoulé mes nerfs. Mais je me mets à compter avec mes doigts. Tu as 30 secondes. 29. Il transpire, en pleine lutte intérieure pour savoir s'il doit ou non me dire la vérité. Amir est à un conseil des plus grands chefs d'organisation criminelle du pays. Ils sont pour la plupart des associés d'Amir et leurs prédécesseurs ont été associés avec les autres membres de la famille Ben Khalif. Ils ont tous des affaires en commun. M'explique Ayman. Je l'observe avec incompréhension. Qu'est-ce qu'Amir peut bien foutre avec ces types? Pourquoi un conseil? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je ne peux pas t'en dévoiler plus. Réplique Ayman. Je le fusille du regard. Dis-moi ce qui se passe. Je ne peux pas. Tu veux vraiment que je fasse une connerie, hein? Il soupire. Amir a des problèmes avec eux. Me confie Ayman. Développe. Des problèmes graves. Je fronce les sourcils. Ce n'est pas ce que j'appelle développer. Ayman se tend. Il lui reproche de s'être marié avec toi. Y a-t-il ne serait-ce qu'une seule personne heureuse de cette union? Je ne comprends pas pourquoi on nous met autant de bâtons dans les roues. Qu'est-ce que ça peut bien leur faire? Ayman souffle. Ils sont tous au courant que tu es la fille d'Ahmed. Ils ont peur que tes relations conflictuelles avec ton père soient source de problèmes pour Amir et que ça entrave les affaires. Ils craignent qu'Ahmed vienne foutre la merde dans leur trafic pour se venger de toi. Ils estiment également qu'Amir n'aurait pas dû t'épouser sans en informer le conseil. Tu ne te rends pas encore bien compte, mais le monde du crime fonctionne comme une grande famille dont les membres doivent se rendre des comptes, surtout quand on occupe la position d'Amir. Je sais qu'Amir n'aime pas les formalités et qu'il est du genre à dire aux autres d'aller se faire foutre, mais il n'est pas stupide au point de se mettre tous ses associés à dos. Leur relation fonctionne parce qu'ils ont confiance en lui. Ils croient tous en ses capacités de leader. Mais si la confiance est rompue, Amir risque de faire face à des tentatives de rébellion. Ce n'est absolument pas le moment d'avoir de nouveaux ennuis. Qu'est-ce qu'Amir est en train de faire là-bas? Il défend votre relation. Il doit faire en sorte de conserver la confiance de ses associés tout en préservant votre mariage. J'en ai marre de devoir défendre cette union auprès de gens auxquels je ne dois strictement rien. Je sais qu'en épousant Amir, j'ai accepté tout ce que cela implique, mais ça me fatigue de devoir prouver notre bonne foi. Je ne suis pas une menace. C'est tout l'inverse. Les membres du conseil ont exprimé leur souhait de te voir, mais Amir a refusé catégoriquement de t'y emmener. Poursuit Ayman. Je serre les poings. Emmène-moi là-bas. Je lui ordonne. Quoi? Non? S'offusque Ayman en faisant un signe négatif de la tête. Je ne te laisse pas le choix.